Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Margot Leridon, mais aussi Lucas Lazo et Rosalie Suc, réalisée par Alexandra Candy-Longuet et mise en onde ce matin par Edouard Rubinstein. Suite de notre série consacrée aux pays nordiques, après avoir parlé du mythe de l'idéal progressiste scandinave lundi, de la Norvège à la conquête de l'Arctique hier, place aujourd'hui au plus petit pays de la région, l'Islande, avec ses quelques 360 000 habitants. L'Islande a pourtant des arguments de poids à faire valoir et fait figure depuis longtemps d'exemple dans tout un tas de domaines, et notamment s'agissant de la gouvernance. L'Islande, étoile du Nord de la démocratie, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Bon, je dirais que la pandémie n'est pas terminée, mais nous maîtrisons assez bien la situation. Depuis le tout début, en février, nous avons testé plus de 46 000 personnes et nous avons mis en place un système de traçage. Et nous avons, au cours des derniers jours, enregistré entre 0 et 2 nouveaux cas. Ce qui veut dire qu'on contrôle la situation. Mais nous avons adopté des restrictions sociales très importantes. Et donc, on a vraiment mis l'accent sur l'élimination du virus ici. C'était notre objectif depuis le début.
Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de la première ministre islandaise, Katrín Jakobsdóttir, qui revenait en avril dernier pour France 24 sur la stratégie mise en place par son pays pour lutter contre le Covid-19, avec une grande campagne de dépistage de la population mise en place très tôt, ce qui a permis d'éviter le confinement strict et de compter seulement, si je puis dire, 28 morts jusqu'ici. Une gestion exemplaire de la crise. Donc, il faut dire que les crises, l'Islande en a connu d'autres. En 2008, c'est une crise sans précédent qui avait balayé la petite et prospère République d'Islande. En effet, alors que la crise des subprimes s'abattait sur le monde, les Islandais découvraient stupéfaits le poids absolument démesuré de la finance dans leur économie, l'absence totale de contrôle et les risques pris par leurs dirigeants politiques. En quelques jours, l'État avait dû nationaliser les trois banques principales et des milliers d'Islandais s'étaient retrouvés piégés dans une dette colossale. Sous la pression de la rue et de ce qu'on appellera alors la révolution des casseroles, le gouvernement fut forcé de démissionner et ainsi débuta une grande remise en question pour les citoyens. Création de nouveaux partis, projet de rédaction d'une nouvelle constitution, référendum. La période entraîna de nombreuses innovations en matière démocratique et économique. Il n'en faudra pas plus pour faire de ce peuple, aux yeux du monde, le héros de la résistance anticapitaliste et du renouvellement démocratique. Alors, quelles ont été les recettes islandaises pour se relever de cette triple crise économique, politique et morale de 2008? Le système a-t-il été remis en cause ou tout simplement renfloué? Que sont devenues les nombreuses initiatives démocratiques et citoyennes lancées dans le sillage de la déroute? L'Islande a-t-elle tiré les leçons de la crise et en quoi son histoire peut-elle être source d'inspiration pour le reste de l'Europe? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Lionel Cordier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Lyon 2 et de l'Université d'Islande. Vous venez de soutenir, et je vous en félicite, une thèse intitulée, je vais le donner son titre, c'est toujours important quand on vient de soutenir une thèse, « Crise démocratique et mutation contemporaine de la représentation politique, l'exemple islandais 2008-2017 bah, ». C'est d'ailleurs un peu la période sur laquelle on va se pencher en tirant jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Léo Malherbe est avec nous également. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Enchanté, vous êtes doctorant, vous terminez votre thèse à l'université de Bordeaux. Bah, je vais donner son titre aussi, la proposition islandaise de création monétaire souveraine. Et vous êtes également, Léo Malherbe, attaché d'enseignement et de recherche à Sciences Po Bordeaux. Je disais dans mon introduction, et je vais commencer peut-être avec vous, Lionel Cordier, que dès avril dernier, on a entendu le témoignage de la première ministre islandaise. Alors, elle refusait de dire que la pandémie était totalement sous contrôle, mais que quand même, elle était assez bien maîtrisée, on voit toute la nuance, et force est de constater qu'elle avait raison, puisque 8 mois plus tard, le pays ne compte que, si je puis dire, c'est toujours un drame évidemment, mais que 28 décès de Covid. Est-ce que ce bon résultat, c'est essentiellement le fruit d'une situation démographique et géographique tout à fait favorable, 360 000 habitants à peu près, je le disais, sur un territoire qui est quand même relativement grand. On a une densité de population qui est très faible, l'une des plus faibles au monde. Ou c'est aussi le résultat précisément d'une très bonne gestion de cette crise sanitaire par les politiques, Lionel Cordier?
Je crois que c'est les deux, effectivement. Vous soulignez bien, bon, d'abord les avantages démographiques de l'Islande. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gérer un pays de 300 000 habitants où en plus vous avez une population qui est finalement qui tient déjà en partie la distanciation sociale. Mais vous avez aussi effectivement un effort. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à regarder au niveau de la gestion politique de cette crise en comparaison avec la France, de voir qu'il y a vraiment eu un effort politique qui a été mis aussi sur la question de la transparence des décisions qui étaient prises. Après, le petit nombre d'habitants a aussi vraiment aidé. Vous avez des entreprises de biotechnologie qui ont mis leurs compétences au service de la gestion de la pandémie. Je pense à Decode Genetics notamment, et qui a permis aussi de faire très très rapidement des campagnes de dépistage vraiment massives, de comprendre déjà comment le virus circulait.
C'est une des choses étonnantes, Léo Malherbe, c'est que dès le mois d'avril, le pays a fait le choix du test massif. 12% de la population était déjà testée en avril. C'était déjà largement plus de l'Allemagne, dont on disait déjà qu'elle était un modèle. Il y avait par ailleurs le traçage qui a été mis en place dès les premières semaines. Et pourtant, en Europe, nous, on a eu énormément de temps à mettre en place tout cela. On a vu que ça a été particulièrement le cas chez nous, ici en France, pour des raisons de problèmes techniques, des problèmes matériels. Comment l'Islande a réussi à déployer aussi vite cette stratégie de test à grande échelle avec une telle efficacité? Là, il y a quelque chose d'assez impressionnant, Léo Malherbe.
En effet, je suis assez d'accord sur ce constat. C'est assez impressionnant dans la rapidité de déploiement. Et je pense que le critère qu'il faut vraiment mentionner là-dessus, c'est l'efficacité du partenariat, on pourrait dire public-privé, qui s'est très rapidement mis en place. Comme le soulevait Lionel Cordier avec l'entreprise Decode Genetics, qui a mis quand même tous ses moyens à disposition de la politique sanitaire du gouvernement. Donc là, on peut saluer, oui, un vrai partenariat tout à fait efficace sur ce plan-là.
Sur le plan économique, Léo Malherbe, vous préparez une thèse sur la question de la création monétaire, et donc les questions économiques sont un peu votre fort, si je puis dire. Comme tous les pays, l'économie islandaise a été touchée évidemment par cette crise sanitaire. On a eu un pays qui est rentré en récession au deuxième trimestre. On a la Banque centrale qui a annoncé très récemment une nouvelle baisse du taux directeur pour dynamiser un petit peu cette reprise. On en est où aujourd'hui? Quel est l'état de l'économie nationale et quelles sont les perspectives de reprise, Léo Malherbe?
Alors bon, avant de commencer, j'annonce tout de suite quand même que je prends le sujet avec des pincettes. On est dans une situation extrêmement incertaine, donc difficile de prendre les pronostics à ce stade-là. On peut mentionner en effet quand même une récession assez forte qui prend place à ce stade-là, mais on peut espérer quand même une reprise assez rapide. Donc comme vous le mentionnez, on va avoir une baisse des taux directeurs, mais on va aussi avoir a priori un déficit assez important qui va être mis en place pour soutenir la demande, de l'ordre de 10% du PIB, ce qui est quand même pas négligeable. Et on table aussi sur une légère dépréciation de la devise pour soutenir un petit peu le secteur exportateur. On peut noter aussi qu'il y a un effort pour essayer de maintenir un flux touristique, même si celui-ci a fortement été réduit. La politique, disons, d'entrée des personnes sur le territoire est assez stricte, mais il y a une tentative, disons, pour trouver un compromis entre une fermeture totale et l'arrêt de l'économie.
Ouais, assez strict, très strict quand même. Il y a une mesure de quarantaine quand on arrive sur le territoire.
Mesure de quarantaine, voilà. Et double test, c'est-à-dire qu'on est testé en entrant et puis on est testé après quelques jours avant de pouvoir vraiment
circuler. Après la quarantaine.
Voilà, exactement.
Lionel Cordier, et puis évidemment, peut-être on peut rajouter, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir, que vous avez raison d'insister sur le tourisme parce que c'est devenu une manne très très importante. L'économie était davantage tournée vers la finance il y a quelques années, mais évidemment la crise est passée par là, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Lionel Cordier, après l'émergence de la crise, le philosophe Bruno Latour avait imaginé un petit questionnaire que l'Obs avait transmis à un certain nombre de personnalités. Il l'avait notamment transmis à Katrín Jakobsdóttir, donc la première ministre islandaise. Et à la question « qu'est-ce qu'on invente ? Eh bien, elle avait répondu la chose suivante, je la cite. « Ces temps si difficiles montrent l'importance de l'économie dite du bien-être, qui peut nous aider à surmonter la situation plus rapidement. Il s'agit de ne plus penser seulement en termes de PIB et de croissance. » On parlait justement à l'instant avec Léo Malherbe de PIB et de croissance. Est-ce que justement le pays a commencé à inventer ce modèle post-PIB, ce modèle post-croissance économique, Léo Malherbe ? Lionel Cordier, pardon.
C'est une très vaste question. Je pense effectivement que l'Islande doit affronter des questions qu'inévitablement nous aussi nous affronterons. Je pense c'est vrai que c'est un des pays qui a toujours l'IDH le plus élevé, donc vraiment qui était vraiment au top.
L'indice de développement humain. L'indice de développement humain.
Et du coup, c'est vrai que ça pose la question à un moment, et je pense pour les pays nordiques d'ailleurs en général, il y a toujours cette question de puisqu'on est en tête, qu'est-ce qu'on fait maintenant, voilà, de quelle façon est-ce qu'on oriente notre économie, nos politiques, après moi j'ai quand même tendance vraiment à me méfier de ce genre de grandes phrases. Je crois qu'il faut aussi vérifier quels effets ça donne au quotidien, et je crois que l'Islande a aussi beaucoup de challenge à passer, que ce soit encore y compris sur la question de l'égalité des inégalités hommes-femmes, mais aussi sur les inégalités en général, sur les questions migratoires. Donc il y a toujours quand même des problèmes assez disons basiques, matériels à affronter.
On va évidemment se pencher tout à l'heure sur la question des égalités ou des inégalités, ça dépend comment on le voit, homme-femme, on aura tout à l'heure Christine Jones de Tir. Mais si on regarde peut-être Léo Malherbe, la personne dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette première ministre Catherine Jacobs de Tir, il faut peut-être dire un mot sur la manière dont elle est arrivée à la tête du gouvernement en novembre 2017, parce que ça se fait à l'issue d'élections qui sont remportées pas du tout par son parti, mais par le Parti de l'Indépendance, qui est un parti de centre-droit, qui avait rassemblé 25% des suffrages. Au lendemain des élections, on avait des pourparlers qui se sont mis en place dans le camp de la gauche dans un premier temps, auquel elle appartient, sauf que en réalité, cette union de la gauche a échoué. Mais Jacobs de Tir va parvenir quand même à prendre la tête d'un gouvernement de coalition avec précisément le Parti du Progrès, c'est-à-dire le parti en fait qui est de l'autre côté, de l'autre camp, plutôt centre-droit. Là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être expliquer, parce qu'il y a vraiment un tour de force politique. Comment est-elle parvenue à écarter son adversaire et leader du parti vainqueur et par ailleurs Premier ministre sortant, tout en faisant alliance avec lui ? Enfin là, il y a quand même quelque chose d'incroyable, Léo Malherbe.
Alors, c'est une question assez complexe hein, là-dessus. Moi, je suis plutôt compétent, disons, sur la période 2008-2016, justement, mais on peut quand même dire un mot. Alors, ce type de coalition assez originale entre un parti donc de gauche radicale, hein, que représente Catherine Jacobs de Tir, et deux partis de droite, c'est pas quelque chose, d'entièrement nouveau, finalement, en Islande. On a déjà vu hein, par le passé, notamment dans les années 50-60, des coalitions entre ce parti du progrès, notamment, qui est un parti agraire de droite, avec ce qui était autrefois l'Alliance du Peuple, par exemple, qui représentait, disons, le parti socialiste, parti communiste islandais. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu, disons, dans l'histoire politique islandaise, qui n'est pas totalement nouveau, et qui traduit, on pourrait dire, peut-être un double clivage dans la scène politique islandaise, c'est-à-dire au-delà du clivage gauche-droite, il y a aussi un clivage, disons, on disait autrefois pendant la guerre froide atlantiste versus isolationniste, mais qui recoupe plutôt la thématique des relations extérieures. On pourrait voir ça notamment aujourd'hui dans la question de l'intégration européenne, où finalement des éléments de la gauche vont se retrouver sur ce plan-là avec des éléments de la droite. Donc ça, c'est, je voulais dire par là qu'il y a une certaine continuité et que ce n'est pas totalement nouveau.
Eh bien, c'est par ailleurs. Après, Lionel Cordier, je vais vous donner tout de suite la parole, mais oui. Peut-être je vais introduire un élément explicatif. Il y en a probablement plein. Vous en avez donné un, Léo Malherbe. Vous me dites qu'au fond c'est quelque chose d'assez traditionnel, mais il y a un élément peut-être qu'on peut mettre en avant et qui explique peut-être en partie justement ce tour de force de Catherine Jacobs de Tir. C'est une affaire qui a été révélée en 2016, l'affaire des Panama Papers, parce que elle avait concerné également, j'allais dire, en tout cas peut-être même au premier plan, l'Islande. Souvenez-vous.
En tant qu'individus, en tant que citoyens, on regardait nos élus, le secteur bancaire et tous ceux qui étaient censés être plus importants que nous. Et tout d'un coup, nous étions dans la position de parents qui disent « Ok, ça suffit, cette fête doit s'arrêter là ». Et oui, bien sûr, la crise économique a été le point de départ de tout ce que nous faisons.
Oui, et vous savez, les gens avaient attendu assez longtemps. Ils avaient subi les conséquences de la crise en acceptant d'être moins payés, de travailler plus. Et ils avaient l'impression que rien n'avait changé, que rien ne s'améliorait. C'était un vrai problème pour eux.
Voilà, les Panama Papers, cette fuite de millions de documents issus de ce cabinet d'avocats panaméens qui avait révélé que des centaines d'hommes d'affaires islandais possédaient aux îles Vierges des entreprises enregistrées auprès de ce cabinet Fonseca. Est-ce qu'au fond, Lionel Cordier, c'est pas aussi ça qui a permis à Catherine Jacobs-Dottir de s'imposer à la tête d'un gouvernement de coalition, disons, situé au centre-gauche, alors même que en réalité, elle n'avait pas remporté ces élections elle-même? Est-ce que c'est pas aussi ça qui explique ce résultat, Lionel Cordier?
Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est là-dessus que je voulais réagir. C'est-à-dire que...
Je vous cache pas que je m'en doutais. C'est pour ça que je me suis permis.
Oui.
Je vous en prie.
Disons qu'elle a, elle a aussi une très forte popularité au sein de la population qui est assez déconnectée de la popularité des écologistes. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, le gouvernement qu'elle mène a plutôt la confiance des Islandais, alors que les écologistes sont plutôt sont plus bas dans les sondages.
Elle incarne un renouvellement politique d'une certaine manière.
En quelque sorte, disons que elle a été militante également dans des associations environnementales. Elle est jeune, donc il y a effectivement elle plaît aussi à la population et elle contraste aussi avec ces figures du Parti du Progrès, du Parti de l'Indépendance, qui étaient vraiment vus comme les partis responsables. Alors donc à la fois, vous avez raison, donc de la crise de 2008. Mais aussi de 2016, vous avez rappelé les Panama Papers, donc ont aussi rappelé de très mauvais souvenirs aux Islandais. Et vous avez aussi une autre crise qui a eu lieu en 2017, donc qui était plus, disons, un scandale juridique avec cette fois donc Bjarni, donc justement le chef du Parti de l'Indépendance, dont le père avait tenté de couvrir un ami qui avait été condamné pour pédocriminalité.
Bjarni Benediktsson, qui en fait était le leader effectivement de ce Parti de l'Indépendance, qui est arrivé en tête de ces élections, qui a rassemblé 25% des suffrages, mais qui pourtant n'a pas été en position de former un gouvernement. Léo Mahler,
voilà, ça il faut, oui.
Il faut, je vous en prie.
Parce que le Parti de l'Indépendance arrive, la plupart du temps, le Parti de l'Indépendance arrive toujours en tête. C'est le parti souvent qui remporte le plus de suffrages. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours le plus apte à mener des coalitions ou des
gouvernements. Oui, et le parti dirigé par Jacobs-Dottir, donc le mouvement des Verts de gauche, était arrivé deuxième avec 16,9% des voix, donc assez largement derrière. On va revenir sur évidemment 2008, qui est l'autre grand séisme, peut-être le principal d'ailleurs, pour comprendre justement toutes les transformations qui ont eu lieu derrière. Mais sur Léo Malherbe, sur ce séisme-là des Panama Papers, sur ses effets sur le paysage politique, Lionel Cordier nous disait que finalement, Jacobs-Dottir et bien incarner peut-être une forme de renouveau dans ce paysage politique et que on en avait vraiment besoin dans un contexte de grande défiance vis-à-vis de la classe politique. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont été touchés par cette affaire-là et qui pourtant derrière ont été réélus. Là, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être chez les citoyens islandais une forme d'acceptation vis-à-vis des malversations fiscales, ou qu'en est-il, Léo Malherbe?
Alors là, je m'avancerai pas pour parler au nom de l'électorat islandais, mais ce qu'on peut dire peut-être en deux mots, c'est que dans le contexte des Panama Papers, on a donc le Parti du Progrès qui est au pouvoir, hein, avec une coalition avec le Parti de l'Indépendance, et le Parti du Progrès a justement fait campagne, disons, dans les termes assez virulent vis-à-vis de la finance internationale, vis-à-vis des banques étrangères, donc a su mobiliser aussi un électorat assez populaire, assez traditionnellement rattaché à la gauche, justement. La gauche elle-même empêtrée dans un conflit diplomatique, notamment avec les Britanniques. Tout ça pour dire que le Parti
c'est
du Progrès...
C'est quoi, pardon, vous faites référence à quel conflit, Léo Malherbe ?
Alors, l'affaire IceSave, donc on y reviendra peut-être par la suite, mais un conflit diplomatique lié justement à la crise bancaire islandaise qui avait opposé assez durement les Islandais aux Britanniques et aux Hollandais.
Quel était le contenu de ce différend ? Allons-y tout de suite.
Alors allons-y tout de suite. Bah, quand les banques, disons islandaises, ont fait faillite en fin de l'année 2008, les Islandais, les autorités islandaises ont fait le choix de séparer le bilan des banques, de garder uniquement les activités domestiques dans des nouvelles banques, comme vous l'avez dit en introduction, nationalisées et recapitalisées, et ont laissé, disons, toute la partie étrangère du bilan dans des anciennes banques, sans se préoccuper d'indemniser notamment les déposants étrangers ou les créanciers internationaux. Et ça a été une source de conflit assez majeur, car pour pouvoir débloquer l'aide du FMI à la suite de la crise, donc pour pouvoir notamment relancer son économie, l'Islande s'était engagée à assurer la garantie des dépôts pour les déposants étrangers, ce qui était normal au vu de la législation européenne. Mais finalement, cette coalition de gauche qui s'était engagée justement à assurer la garantie des dépôts s'est vue bousculée, on pourrait dire, par un certain nombre de référendums qui l'ont empêché finalement d'assurer cet engagement international.
Et oui, parce qu'effectivement, cette affaire des Panama Papers, elle arrive 8 ans après la grande crise financière de 2007-2008, qui elle aussi avait provoqué tout un ensemble de protestations, essentiellement dans la capitale Reykjavik, souvenez-vous.
Nous avons perdu toutes nos économies. On nous avait pourtant dit qu'elles étaient en sécurité à la banque.
Mon entreprise a fait faillite et j'ai perdu mon travail.
Quelques individus à la tête des banques ont pu hypothéquer l'Islande sans notre permission. C'est la plus sévère attaque qu'ait jamais subie notre nation.
Il faut qu'il y ait des changements. Les gens sont très mécontents. Le gouvernement a échoué, les systèmes de contrôle ont échoué, la banque centrale aussi. Les gens sont en colère et demandent des comptes. Ils veulent des changements et surtout des actes.
Nous avons eu les yeux plus gros que le ventre, comme si nous étions de grandes banques. On a cru qu'on pourrait y arriver parce que c'est nous, les Vikings.
Voilà, donc 2008, on se mobilise devant le Parlement, notamment on brûle des drapeaux avec les logos des banques qui ont fait faillite, dont vous nous parliez à l'instant, Léo Malherbe. Les manifestations se succèdent semaine après semaine, pendant des mois. C'est une colère, Lionel Cordier, qu'on avait rarement vue, voire peut-être jamais vue dans ce pays. C'était historique, hein.
Oui, c'était la plus grande manifestation à l'époque, bon, qui ont été après encore plus grande en 2016, mais en 2008, on avait un record de manifestants, et ça n'avait pas été vu depuis l'adhésion de l'Islande à l'OTAN, donc après 45, où là aussi, on avait des Islandais qui protestaient contre cette adhésion.
Qui ne voulaient pas intégrer l'OTAN.
Effectivement, les Islandais étaient contre cette adhésion, mais de fait, ils se sont retrouvés dans le giron américain et les Américains ont installé une base sur leur territoire.
Une base qui d'ailleurs est de moins en moins, je crois, investie par les soldats américains. Enfin, en tout cas, ils se retirent.
Qui a été laissée, oui,
non, elle n'existe plus. Qui est complètement vide aujourd'hui ?
Oui, a priori, ils sont partis. Et cette fois, c'était drôle parce qu'on avait cette fois des manifestations d'Islandais qui protestaient contre le départ des Américains.
Oui,
parce que, de fait, c'était aussi une plus-value économique intéressante.
Oui, et puis il faut quand même préciser qu'on est quand même dans un pays où, en réalité, il n'existe quasiment pas de défense, de moyens de défense. Je ne crois pas me tromper.
Il
n'y a pas d'armée, quasiment pas de moyens de défense. Donc ça veut dire que quand les Américains s'en vont...
Il y a juste des gardes-côtes,
Ouais, c'est ça. Donc quand les Américains s'en vont, il n'y a plus personne pour défendre le pays éventuellement.
Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une réactivation de beaucoup d'enjeux dans le Grand Nord et dans le Nord. Donc l'Islande regagne à nouveau cet intérêt stratégique qu'elle avait auparavant, qu'elle avait un peu perdu à la fin de la guerre froide. Mais du coup, on a à nouveau une position clé.
Léo Malherbe, alors on va venir peut-être au cœur du problème. Vous nous avez un peu donné là déjà quelques éléments sur ce que cette crise de 2008 avait révélé des failles du système, notamment du système bancaire islandais. Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon de tout ça? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour justement réguler un peu ce système bancaire et financier islandais si défaillant?
Alors, des leçons, c'est difficile à dire sur les mesures qui ont été prises.
C'est un grand mot, vous
voulez dire, ouais. Voilà, c'est toujours un petit peu ça avec l'Islande, comme le dit assez bien Lionel dans sa thèse. On a toujours cette vision un petit peu mythifiée et de l'exemplarité islandaise, donc il faut relativiser ce point de vue. Mais on peut quand même tirer quelques points à partir de là. Il y a des mesures, disons, de politique économique assez classiques. On a vu un stimulus budgétaire assez conséquent dès fin 2008, début 2009. On a eu une baisse des taux d'intérêt directeurs. Donc disons les leviers traditionnels de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Mais on a vu aussi des politiques assez originales, notamment je pense à la gestion de la dette privée, où on a eu des politiques d'annulation de dette ciblée, c'est-à-dire qu'on a cherché à trouver où étaient vraiment les points de fragilité du tissu économique islandais, et on a cherché à annuler des dettes pour maintenir, disons, d'une part, du côté de la demande, la capacité des Islandais à consommer, notamment en annulant une partie des dettes immobilières, et côté offre, en annulant une partie des dettes des entreprises, et notamment des petites et des moyennes entreprises, c'est-à-dire qu'on a cherché pour toutes les entreprises qui étaient viables sur le long terme, à ne pas les faire entrer en faillite du fait de cette crise.
Mais dites-moi, c'est quand même pas mal ça, c'est des grandes mesures, c'est pas de la petite mesurette.
Ah oui, c'est des mesures tout à fait significatives. Et d'ailleurs, il y a fort à penser que les mesures qui sont prises aujourd'hui dans un certain nombre de pays, sous des formes différentes, mais avec la crise du coronavirus, sont à mettre en lien avec ce type de politique originale, oui.
Oui, puis par ailleurs, on pourrait aussi évoquer le fait qu'en 2014, il y a un banquier qui a été condamné à de la prison ferme. Là aussi, c'est quand même assez rare pour le noter.
Alors oui, c'est assez rare. Moi, je range quand même ça dans l'épiphénomène, je dirais, dans le sens où ça ne traduit pas la politique, disons, générale. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu à l'étranger, donc c'est vrai, c'est un fait notable, mais on n'a pas non plus vu en Islande des cargaisons de banquiers se faire emprisonner.
Oui, non,
relativiser aussi ce processus-là.
Vous avez raison. Encore un tout dernier point, et puis ensuite on va en venir à une question très importante, qui est celle de la révision de la Constitution, en tout cas de la tentative de révision de Constitution, pour être plus exact. Mais Léo Malherbe, toujours sur la question monétaire, financière et économique, on l'a dit tout à l'heure, le pays a beaucoup, depuis cette crise, justement, misé sur le tourisme. Est-ce que si je dis que finalement le tourisme est aujourd'hui en Islande ce que la finance était hier, c'est le cas? Ça a remplacé, en termes d'apport économique, ça a remplacé le tourisme, la finance, ou on n'y est pas du tout?
Alors pour répondre à ça, je pense qu'il faut partir vraiment des questions structurelles, c'est-à-dire que l'Islande est vraiment un pays qui a un besoin structurel d'importation, notamment en produits agricoles par exemple, du fait de sa situation géographique, donc il y a un besoin structurel en devises, c'est-à-dire en monnaie étrangère pour satisfaire ses besoins d'importation. Donc on a vu se succéder un certain nombre de modes de développement avec en premier lieu un secteur moteur qui était la pêche, qui permettait de dégager des recettes d'exportation. On a vu ensuite des industries se développer en Islande, et puis au cours des années 90-2000, cette économie très financiarisée qui a pris le pas et qui a amené une entrée massive de capitaux, donc de devises, en Islande. En effet, le tourisme a permis, après la crise, dans un contexte où le contrôle des capitaux a été mis en place et mis en place de manière très stricte, de maintenir cet approvisionnement, disons, en monnaie étrangère, qui est clé pour l'Islande.
Alors, Lionel Cordier, c'est à l'issue de ce grand mouvement populaire, cette révolution des casseroles de 2008 qu'on évoquait tout à l'heure, que le pays va donc lancer ce processus de refonte de la Constitution. Mais il se trouve qu'après des mois de travail de l'Assemblée constituante, après de multiples rebondissements, on va avoir un référendum en octobre 2012 qui va voir la victoire du oui à 66%, avec seulement, je le dis, 49% des électeurs qui se déplacent pour voter, ce qui est peut-être pas énorme finalement, mais quand même très important. Et malgré tout cela, bien le Parlement va tarder à mettre le projet à l'ordre du jour, et puis finalement, après des élections législatives qui consacrent la victoire du Parti de l'Indépendance qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien le texte va être définitivement abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet échec, Lionel Cordier? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à aller au bout de ce processus?
Alors, il y a à la fois des...
On a un peu de temps, hein.
Oui. C'est ça, parce qu'il y a à la fois des soucis endogènes et exogènes, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des soucis dans le processus même, dans la façon dont il avait été préparé, c'est-à-dire que les relations entre l'Assemblée constituante dont vous parlez et le Parlement n'étaient finalement pas assez formalisées et les... Comment dire, juste pour rappeler un peu comment ce processus s'est déroulé, vous avez eu comme ça, voilà, à un moment, une constituante donc de 25 personnes qui étaient issues de la société civile, et les personnes qui n'avaient pas de mandat, vous ne pouviez pas participer si vous aviez un mandat politique. Il y avait une telle méfiance, disons, vis-à-vis du corps politique, que cette constituante s'est vraiment construite à part. Et du coup, vous avez eu, voilà, un grand problème dans le dialogue avec les parlementaires, alors que le Parlement islandais était celui qui avait le dernier mot. Et du coup, vous avez eu ce nouveau texte proposé, et finalement, le soutien à l'intérieur de l'Alliance social-démocrate, qui était au pouvoir à cette époque, s'est beaucoup érodé entre-temps. C'était vraiment un projet plutôt de Johanna Sigurðardóttir, hein, donc la première ministre de l'époque, et elle ne s'est pas trouvée suffisamment soutenue à l'intérieur même de son propre parti. Bon, vous aviez aussi l'opposition de la droite islandaise qui ne voyait pas l'intérêt de ce nouveau texte. Mais du coup, voilà, le Parlement a finalement a fait mourir le projet, la euthanasie.
Des résistances politiques, j'entends, mais il y a aussi quand même peut-être un manque de soutien, non, de l'opinion. Quand je disais 49% seulement des Absolument. Électeurs qui vont se déplacer pour aller voter pour le référendum, c'est à la fois beaucoup et à la fois assez peu. Quand on imagine ce qu'a été le mouvement de 2008, où là, une majorité vraiment d'Islandais sont descendus dans la rue pour protester, et tout cela aboutit à un processus de transformation de la Constitution qui, en réalité, ne va pas provoquer la mobilisation des citoyens. Il y a quelque chose d'un peu d'étonnant là.
C'était un projet finalement qui était soutenu effectivement que par certaines franges de la population islandaise. Mais vous avez une grande partie aussi qui ne voyait pas tant l'intérêt de réformer ce texte et qui ne faisait pas le lien entre, disons, la faillite économique financière et une faillite politique, ou en tout cas qui la voyait pas du côté de la Constitution.
Et pour ceux qui la voient, peut-être je vais poser la question à Léo Malherbe, où est le lien justement? C'est une Constitution qui remonte à 1944, date de l'indépendance, hein. Les Islandais possédaient une Constitution qui était fondée à peu près sur celle du Danemark, c'était à peu près des constitutions sœurs, si on peut dire. Quel rapport entre la crise financière de 2008 et la loi fondamentale, Léo Malherbe?
Alors encore une fois, question difficile, mais on peut mentionner une chose peut-être intéressante, hein, c'est les quand même des fortes collusions, notamment entre le secteur banquier, financier et politique. On peut prendre pour exemple le processus de privatisation des banques qui a lieu au début des années 2000, où finalement, c'est on le sait aujourd'hui parce qu'un comité spécial d'investigation a été mis en place au lendemain de la crise, qui a permis de mettre un peu de lumière sur ces événements-là. Et on a vu que notamment la privatisation des banques s'était fait au bénéfice, disons, de deux partis politiques qui étaient au pouvoir à ce moment-là, hein, donc les deux partis de droite que sont le Parti du Progrès et le Parti de l'Indépendance, qui, si on peut, pour simplifier, disons, ont privatisé les banques publiques à l'avantage de leur soutien économique et financier. Donc un lien, on peut tout à fait le dresser entre cette crise financière et la crise politique. Si je peux, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, parce que ça me semble tout à fait intéressant. Alors je suis pas spécialiste du processus constitutionnel, mais je pense que là on voit assez bien le paradoxe entre une couverture internationale assez intense du phénomène, finalement qui est assez impressionnante quand on le met en relation avec la faible participation au référendum constitutionnel que vous mentionnez, hein, moins de 50% de participation, c'est quand même assez assez marquant, et on peut peut-être soulever un facteur intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'en 2012, l'économie islandaise est finalement déjà quasiment repartie. Alors, elle n'est pas encore revenue à son niveau d'avant, mais on n'est pas très loin du plein emploi, le déficit est stabilisé, la dette est stabilisée, les indicateurs sont plutôt au vert, donc finalement, le lien qui était très très marqué, disons, entre la crise financière et la crise économique, on peut dire, c'est distendu d'une certaine manière. Ça peut expliquer une faible mobilisation.
Oui, et donc ça explique effectivement, en réalité, on s'intéressait à tout cela davantage à l'extérieur des frontières qu'à l'intérieur des frontières.
Lionel
Cordier, quand même, on peut peut-être regarder ce qu'il y avait dans la proposition formulée par cette assemblée constituante. Est-ce qu'elle avait, avant qu'elle tombe dans l'oubli, qu'est-ce qu'elle avait de si original, de si progressiste, Lionel Cordier?
C'était un texte, et c'est un texte qui est assez novateur, bon, sur plusieurs points. Alors, vous avez des points qui, à mon avis, avaient suscité justement la très très grande méfiance de la droite, notamment le texte instituait l'idée d'une propriété nationale des ressources non exploitées. Donc, de fait, toutes les ressources non exploitées étaient considérées comme appartenant à la nation islandaise. Donc, ça posait ensuite potentiellement des soucis juridiques, notamment vis-à-vis de quotas de pêche, vis-à-vis de la pêche. Vous aviez d'autres aspects, notamment sur la liberté d'expression, sur la protection des minorités, du droit à l'information, le droit sur la protection des sources journalistiques, je pense. Vous avez des passages sur la protection de l'environnement, des espèces et sur la protection de l'enfance aussi. Donc c'était un texte qui était assez novateur, qui laissait aussi plus de place au président de la République. Donc les parlementaires avaient peur aussi d'un déséquilibre potentiel entre les pouvoirs. Voilà, après j'aimerais juste réagir parce que vous dites tomber dans l'oubli, mais c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement le texte bénéficiait finalement d'un faible soutien à ses débuts, mais depuis 2012, il y a vraiment la gauche islandaise s'est saisie de ce texte, et maintenant vous avez un retour du sujet dans la politique, dans le débat public islandais.
Donc il n'est pas complètement mort, c'est ce que vous voulez dire, ce projet.
Voilà, il bouge encore.
Bon, il bouge encore. On va dire qu'en tout cas, il est en sommeil. C'est intéressant parce que c'est pas le seul événement politique qui, comme ça, à un moment explose et puis finalement, sinon meurt, au moins se met en sommeil, pour reprendre votre formule. Ça fait penser à un autre événement, c'est l'émergence et même l'explosion, pourrait-on dire, en Islande du parti pirate. On l'a vu un peu partout en Europe, en Allemagne, en Suède, on a eu aussi là en France. Je vous propose d'écouter peut-être la leader du parti pirate, on est là en 2013.
Beaucoup de gens voient l'Islande comme un laboratoire d'idées démocratiques. Et même si certaines choses qui ont été dites au moment de la banqueroute du pays sont de l'ordre du mythe, une grande partie est effectivement vraie et très encourageante. Mais on en revient toujours à la même idée, que le pouvoir et l'argent corrompent et que les parlementaires n'ont pas été capables de faire leur travail, surtout quand il s'agit d'écouter ce que la nation veut.
Brigitta Jones-Dottir, leader du parti pirate, on est en avril 2013, à un moment où le parti fait son entrée au Parlement grâce à un bon résultat, dès sa première participation, 5,1%. Le parti va exploser dans les mois suivants, il va même être mesuré, j'ai regardé hier, en mars 2016 à 36%. Et puis finalement, là encore, le parti va progressivement s'effriter. Aujourd'hui, on le mesure à moins de 10% dans les sondages d'intention de vote. Pour rappel, ce parti pirate, c'est un parti qui prône la protection des droits et des libertés fondamentales, aussi bien dans le domaine numérique que dans tous les autres domaines. C'est une forme de libertarianisme 2.0, si on peut dire. Mais là aussi, Lionel Cordier, c'est étonnant de voir un phénomène politique qui explose très rapidement et puis, bof, qui retombe.
Oui, c'est vrai que je nuancerais beaucoup plus cette histoire. Je crois qu'il y a eu surtout vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette explosion dans les sondages qui est très très impressionnante. Après, il y a eu aussi un emballement médiatique à l'international parce que effectivement, le parti pirate, il y avait vraiment aussi un aspect très exotique dans cette formation politique qui fascinait à l'étranger. Le parti pirate islandais a jamais savait quand même aussi, connaissait ses forces et ses faiblesses, donc il n'était pas il était plus circonspect. Birgitta Jones-Dottir notamment n'a pas été surprise des résultats en 2016 et 2017, et ça reste une force politique qui compte sur la gauche, même si effectivement vous avez raison, elle s'est effritée, mais c'est vraiment une des formations politiques qui perdure depuis la révolution des casseroles. Alors vous avez eu beaucoup d'autres partis qui sont apparus et qui ont disparu très vite.
Non mais c'est vrai que quand on passe de 36% d'intention de vote à moins de 10%, Bon,
oui, absolument.
C'est pas la grande
forme
non plus.
Coup, les résultats, le nombre de parlementaires au Parlement, je veux dire, c'est ça qui
oui,
compte.
Oui, bien sûr.
Du coup,
vous avez justement. Raison. On est avec vous, Lionel Cordier, vous, Léo Malherbe, dans cette série consacrée aux pays nordiques. On parle aujourd'hui de l'Islande, l'étoile du Nord de la démocratie. L'actuelle première ministre islandaise, Katrín Jakobsdóttir, n'est pas la première femme à occuper ce poste et son accession au pouvoir n'a absolument pas provoqué d'émoi dans ce pays qui a été le premier au monde à élire une présidente de la République au suffrage universel. C'est en 1980, en Islande, l'égalité salariale est inscrite dans la loi, le congé paternité est obligatoire, si bien que l'île est considérée comme l'un des plus égalitaires de la planète. On va parler justement de cette question tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Une situation qui doit beaucoup à un événement fondateur, la grève des femmes de 1975.
Okkar daglegi þáttur innan þessara umgjörðar. Nýtum við réttindi og uppfyllum við skyldur til jafns við þá sem við eigum samleið með. Af nýjum sjónarhóli skynjum við okkur sjálfar og líf okkar eitt andartak. Athyglin skerpist og einni sjónhending sért samspil orsaka og afleiðinga í lífi okkar.
Voilà, extrait de la chaîne de télévision nationale, archives de 1975. Cette journée du 24 octobre 1975 a marqué le mouvement féministe en Islande et même bien au-delà. Ce jour-là, presque toutes les femmes du pays descendent dans la rue pour une grève nationale. C'est la première fois que les Islandaises de tous âges, de toute classe, de toute tendance politique se réunissent pour discuter de questions communes. Bonjour Christine Jonsdottir.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes traductrice et lectrice de langue islandaise à l'université de la Sorbonne. Vous allez nous expliquer l'importance de ce mouvement, de cette journée du 24 octobre 1975. Mais peut-être avant, comme vous êtes traductrice, j'en profite. Vous avez entendu cette voix qui s'adresse devant une foule immense. Que dit-elle ?
Elle est assez poétique. Elle dit qu'on se questionne sur nos droits, sur nos obligations. Est-ce que nous profitons bien de nos droits? Est-ce que nous remplissons nos obligations? Mmh. Et voilà, nous voilà ici. On montre en un clin d'œil comment notre importance est réelle en quittant nos postes. C'est ça le but, c'était de montrer que les hommes ne pouvaient pas se débrouiller sans les femmes.
Et elles, d'abord, elles avaient raison. Mais surtout, là où elles avaient parfaitement, doublement raison, c'est que cette journée était vraiment historique. C'est-à-dire que c'est un moment qui, aujourd'hui encore, est très important dans l'imaginaire collectif. Vous confirmez ?
Absolument, oui. C'est un de ces moments où on a réussi quelque chose, ce qui était absolument pas attendu à l'avance. Les Islandais n'ont pas la culture de manifester, pas trop.
Et concrètement, on a obtenu de nouveaux droits lors de cette manifestation ? Enfin, à l'issue, pas tout de suite, mais je veux dire, dans la lignée de cela.
Rien ne se passe
bien sûr.
tout de suite, mais c'est à ce moment-là où les femmes ont compris qu'elles pouvaient être réunies, être une force réelle. Elles ont donc commencé à travailler là-dessus, d'abord dans les cuisines, chez elles, sur une tasse de café. Et puis petit à petit, elles ont rentré dans la politique, donc avec d'abord Vigdis Finnbogadottir qui est le présidente. Et ensuite, le Parti de la Femme en 1983, qui a donc fait un bon score. Et donc, elles sont rentrées à l'Assemblée comme un parti de femmes avec sa politique de discuter des affaires de la femme à l'Assemblée nationale.
Et comment ont-elles fait, justement, Christine Jonsdottir, cette percée dans le paysage politique ? Est-ce que ça s'est fait par le truchement de lois, de textes législatifs, de quotas ?
Oui, beaucoup. Depuis, justement, à partir de ce moment, la politique a compris que, en fait, c'est eux qui peuvent faire les changements. Mmh. Et ça, je vois que même les femmes du secteur privé, les femmes de pouvoir dans le secteur privé disent, c'est le gouvernement, c'est la politique et non le secteur de commerce, non le secteur privé qui a fait bouger les choses. Hein. Mmh. C'est vraiment par la réglementation et les lois. Mmh.
Christine Jones de Tir, il y a le paysage politique, la représentation des femmes dans ce paysage politique, mais il y a aussi la question de l'égalité salariale. Alors, une fois encore, vu d'ici, on a tout souvent tendance à dire que l'Islande est un pays modèle en la matière, parce que c'est vrai, c'est l'un des pays les plus égalitaires sur le plan des salaires. Et en même temps, tout n'est pas encore gagné. L'égalité n'est pas parfaite. On en est où aujourd'hui?
Ben écoutez, les chiffres que j'ai, c'est de 2018. Mmh. Et le cap est de 16%.
D'accord. Il y a encore un écart de salaire de l'ordre de 15-16%.
Voilà. Mmh. Donc nous, si on se base sur une journée normale de 8 heures qui se termine à 17 heures, nous, on n'est plus payé à 14h55. Mmh.
Est-ce qu'il y a espoir que ça s'améliore encore? Il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, il y a une nouvelle loi qui a été votée. Désormais, les entreprises de plus de 25 salariés et même les administrations doivent respecter cette loi qui impose de décrocher une certification qui est destinée à prouver que, à travail égal, ces entreprises ou ces administrations versent le même salaire aux hommes et aux femmes, sachant que l'égalité salariale est déjà inscrite dans la Constitution depuis longtemps, depuis 1961. Mais est-ce que cette loi est appliquée et respectée? Et est-ce qu'on peut espérer qu'elle va permettre de finir de combler le fossé qui est de l'ordre, aujourd'hui, vous nous disiez, de 16%? Ou est-ce qu'il y aura toujours... Enfin, ça va être très long.
Ben, c'est très difficile à dire. Parce que, justement, il y a toujours cette question de travail égal. Qui travaille, quand et comment, et qui fait le plus. C'est toujours cette logique qui rentre dans cette équation, quoi. Mmh, mmh. Mais moi, je suis optimiste. Mmh. Je pense sincèrement que si on peut le faire quelque part, c'est en Islande. Mmh. Parce que il y a une sorte de compréhension, il y a une fraternité entre les genres, qui est largement plus normal qu'en France, normalisé.
Vous voulez dire que les hommes sont très globalement, très majoritairement sensibles à ces questions de femmes? C'est ça que vous voulez dire?
Oui, ouais. Oui, ils le sont quand même. Même si parfois ils ont un peu de mal, ils se sont un peu attaqués, etc. Mais
c'est beaucoup mieux qu'en France. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous vivez en France, hein, Christine Jones de Tir. Donc ouais. Vous avez évidemment ce double regard. Il y a la question de l'égalité salariale, de l'inégalité salariale, mais il y a aussi la question du marché du travail de façon plus générale, parce qu'on peut voir que si ça progresse sur les niveaux d'écart de salaire, en revanche, le marché du travail, lui, reste encore très genré. Je caricature, mais en gros, les hommes travaillent plutôt dans les banques et les femmes plutôt dans l'éducation et la santé. Je caricature un peu, mais c'est encore ça un peu, quand même.
Oui, oui, absolument. C'est une vérité. C'est caricatural, mais c'est la vérité. Mmh. C'est, même si il y a quasiment autant de femmes dans les bureaux d'administration, dans les administrations des grandes entreprises, elles sont dans conseils d'administration, mais elles n'ont pas cadre supérieur dans ces mêmes entreprises. Mmh. C'est les hommes en grande majorité. Mmh. Et les femmes restent en arrière. Mmh. Donc,
on parlait tout à l'heure, Christine Jones de Tir, de la crise économique. L'Islande n'a pas été épargnée en la matière, on l'a dit. Et souvent, ce qu'on remarque, ça a été le cas en France, mais c'est le cas en fait en réalité un peu partout malheureusement, c'est que en première ligne de ces crises économiques se trouvent précisément les femmes. S'agissant de la crise économique qui découle de la crise sanitaire du Covid, est-ce qu'on l'a remarqué aussi sur l'Islande? Est-ce que les femmes ont été plus touchées que les hommes par cette crise?
Je pense que oui. Mais j'ai pas vu non plus d'études vraiment là-dessus. Je crois que tout le monde on est encore dans la chose et on peut pas avoir un regard dessus très clair. Mais je pense que là, c'est pas seulement les femmes, c'est aussi d'autres groupes minoritaires assez récents en Islande, les étrangers, les immigrés qui n'existaient pas avant, qui sont venus avec le tourisme, avec cette croissance économique post-crise. Et c'est eux qui restent à la maison, là.
Tiens, je vais poser la question à Léo Malherbe. Léo Malherbe, est-ce que vous avez des indications? Est-ce que les femmes, et à quel point elles auraient été davantage touchées par cette crise du Covid? Et puis, plus généralement, par les crises, parce qu'on pourrait aussi regarder la crise de 2008. On l'a dit, l'économie islandaise a été ébranlée par cette crise terrible. Est-ce qu'à chaque fois, les femmes sont en première ligne et payent le plus lourd tribut? Léo Malherbe?
Alors, sur la crise qu'on est en train de traverser en ce moment, je partage assez le constat qui a été fait. En fait, on manque beaucoup de recul pour se positionner à ce stade-là.
Et sur 2008?
Sur la crise de 2008, je voudrais pas trop m'avancer. Je pense que d'une certaine manière, dans la mesure où les femmes ont été quand même davantage employées, comme vous l'avez souligné, dans des emplois qui relèvent du tertiaire ou de l'administration ou du secteur hospitalier, d'une certaine manière, mais à prendre avec précaution, hein, on pourrait dire qu'elles ont aussi pu être protégées, mais avec des très gros guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il faut pas trop s'avancer là-dessus. Je pense que finalement c'est très difficile à ce stade-là, en l'état des données dont on dispose, en l'état des connaissances, de se positionner clairement sur la question.
Lionel Cordier, un élément là-dessus? On arrive presque au terme de cette émission.
Pas d'éléments sur les données économiques. Après, il y a vraiment eu... comment dire, il y a eu une analyse, des analyses féministes aussi sur la crise de 2008 où le discours de conquête de la finance était un discours qui était très marqué, très masculiniste. Et il y a eu un espèce de retour après 2008 vraiment à l'idée en face sur l'économie du Caire, retour aux vraies valeurs islandaises et du coup aussi voilà ce que les femmes pouvaient apporter en termes de gestion politique. Nú best frá rauðu húsi læpast refa hjón og lafir bróð kjafti lerki skóurinn. Hann fær nú margt að vita þegar kóngurinn er með kross í hendi koma.
Voilà, c'est avec ce joli morceau islandais dont on mettra les références sur le site de France Culture, déniché par Alexandra Candilongué, que l'on se quitte. Un grand merci à tous nos invités. Christine Janders-Dottir qui était avec nous à l'instant. Léo Malherbe, Lionel Cordier, un grand merci à tous trois de nous avoir éclairés sur cette étoile du nord de la démocratie islandaise. On poursuit demain nos pérégrinations du côté des pays nordiques, mais tout de suite c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors aujourd'hui, vous intéressez aux relations sino-américaines. Peuvent-elles s'améliorer après le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, Brice?
Les Chinois n'aiment pas les partenaires fantasques. Contrairement à Moscou, Pékin souhaitait la victoire de Joe Biden, réputé moins imprévisible que le président sortant. Mais la compétition entre les États-Unis et la Chine est inscrite dans la logique même de l'histoire. C'est elle qui, traditionnellement, a toujours opposé la puissance dominante d'une époque à la puissance ascendante, qui aspire à lui dérober le leadership. La diplomatie de Joe Biden sera probablement différente, notamment en ce qui concerne les alliés de l'Amérique. Mais vis-à-vis de la Chine, il n'y a pourtant que peu d'inflexions à en attendre. D'autant qu'on ne sait toujours pas si le Sénat, qui joue un rôle déterminant dans la politique étrangère américaine, restera dominé par les Républicains ou bien si Joe Biden y disposera d'une majorité. Mais il vaut la peine de lire l'article que Michael Beckley et Hal Brands viennent de mettre en ligne sur le site de la revue Foreign Affairs. Ces deux spécialistes américains estiment que cette décennie sera celle de tous les dangers. Le risque d'affrontement entre les États-Unis et la Chine va devenir très élevé, disent-ils. À l'heure actuelle, c'est la Chine qui mène. Son PIB en parité de pouvoir d'achat est le plus élevé. Elle dispose de surplus commerciaux impressionnants et de davantage de missiles conventionnels. Mais à long terme, Elle présente des fragilités qui risquent de lui faire perdre les supériorités qu'elle était sur le point de conquérir. Sa population vieillit. Au cours des 30 prochaines années, elle va perdre 200 millions de personnes en âge de travailler et elle va devoir verser des pensions de retraite à 300 millions d'autres. Sa productivité, déjà stagnante, va en souffrir. Ses dettes ont atteint un niveau estimé à 335% de son PIB. La direction communiste du pays n'a pas tort de redouter des troubles sociaux. Significativement, nombre de membres de l'élite des affaires ont déjà placé une partie de leur fortune à l'étranger. En outre, l'expansion chinoise en mer de Chine du Sud inquiète beaucoup ses voisins. Les relations avec l'Inde sont à nouveau tendues et le Japon a déployé des lanceurs de missiles antinavires à Okinawa, à proximité donc de Taïwan. L'histoire enseigne, poursuivent les auteurs, que les plus désespérés des courses folles sont venus de puissances qui, quoique en situation ascendante, s'inquiétaient de ce que le temps leur était compté. Fin de citation. Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était bien la première puissance d'Europe, mais elle voyait avec inquiétude la Russie, alliée de la France, développer rapidement sa puissance militaire. C'est pourquoi les dirigeants allemands ont avancé résolument vers la guerre. Idem du Japon en 1941, dont les chances de dominer l'Asie-Pacifique étaient sur le point de s'évanouir lorsqu'il a déclenché la guerre avec les États-Unis.
Et alors Brice, en quoi les tensions sino-américaines sont-elles comparables avec ces précédents historiques que vous évoquez ?
Les dirigeants chinois sont également susceptibles de considérer en effet que la fenêtre d'opportunité pour se mesurer avantageusement avec les États-Unis pourrait bien se refermer d'ici quelques années. Et la première occasion de marquer des points pourrait leur être fournie par une invasion de Taïwan. La population de l'île, quoique chinoise, ne veut pas renoncer à l'indépendance de fait dont elle jouit, malgré les liens économiques étroits noués à l'initiative de Pékin. Or, selon Beckley et Brands, Taïwan revêt une importance stratégique considérable. Taïwan est le pivot de la puissance en Asie orientale, écrivent-ils. Tant qu'elle demeure contrôlée par Taipei, c'est une forteresse contre toute agression chinoise. Au contraire, contrôlée par Pékin, elle deviendrait la base arrière d'une constante expansion territoriale chinoise. Elle lui servirait de porte-avions insubmersible, capable de projeter la puissance militaire chinoise partout en mer de Chine méridionale et en mer des Philippines. Or, ces derniers mois, Pékin a multiplié les provocations militaires à proximité de l'île. Une invasion n'est sans doute pas imminente, mais elle est hautement vraisemblable. Or, Taïwan est mal défendu. Ses avions de combat et sa flotte sont concentrés dans des bases qu'il serait aisé à Pékin de neutraliser en prélude à une invasion. Washington, disent-ils, doit donc aider Taïwan à moderniser ses forces de défense et mobiliser les puissances régionales qu'inquiète également l'éventualité d'une annexion de Taïwan, c'est-à-dire en tout premier lieu le Japon et l'Inde. Mais les Européens pourraient également jouer leur rôle de dissuasion en faisant savoir d'avance à Pékin qu'une agression contre Taïwan donnerait lieu de la part de l'Union européenne à de très sévères sanctions économiques. Comme toute administration nouvellement responsable, celle de Joe Biden sera sans doute tentée de faire baisser la température dans ses relations avec Pékin, estiment Michael Beckley et Hal Brands. Mais attention à ne pas perdre un temps précieux. Les États-Unis doivent absolument poursuivre le découplage des deux économies initié par l'administration Trump. Mais la passe est dangereuse, disent-ils, parce qu'il ne faudrait pas non plus provoquer accidentellement le conflit qu'on cherche précisément à éviter.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain Brice, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture, des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.